Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à En toute bonne foi. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir deux invités de prestige, dont Paul Denisot, recteur de la basilique de Montligeon et membre de la communauté Saint-Martin. Bonsoir Don Paul.
Bonsoir France, bonsoir à tous.
Et mon boss, s'il y a une hiérarchie à Radio Courtoisie, Richard de Cèze. Bonsoir Richard. Alors nous évoquerons aujourd'hui principalement le purgatoire, mais bien sûr aussi un peu le paradis. Le purgatoire appartient aux vérités de foi, tout comme les quatre fins dernières, la mort, le jugement, le ciel et l'enfer. Toutefois, il s'en distingue par sa nature transitoire et contrairement au paradis ou à l'enfer qui sont définitifs, le purgatoire est un état de purification temporaire intervenant juste après le trépas pour ceux qui sont promis au salut. Je ne vais pas vous dire, puisque Don Paul, c'est vous qui nous en direz davantage. Mais avant de parler du purgatoire, il faut passer par la mort. Don Paul, la souffrance de la mort d'un proche est un déchirement. L'homme n'aurait-il pas inventé un au-delà qui permettrait de vivre différemment, mais toujours avec l'être cher perdu, plutôt que de se confronter à un vide absolu?
Oui, c'est une bonne question et c'est souvent une objection qu'on nous porte. Effectivement, la mort, c'est l'effondrement de tout, la mort d'un conjoint, la mort d'un enfant, la mort d'un ami ou d'un parent. Avec le décès de celui ou de celle qu'on aime, tout s'effondre. Je verrais pas plutôt une invention, mais je verrais plutôt fondamentalement dans le cœur de l'homme quelque chose qui résiste, en fait.
Oui.
Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui dit c'est pas possible que ce soit terminé. Plus que, vous voyez, quelque chose d'inconscient, parce que ne serait-ce que le deuil, le temps du deuil qu'on vit, et on va avoir des réflexes, soit de garder les images de ceux ou de celles qu'on a aimées, les photos, la voix, les enregistrements, les vêtements. Et il y a quelque chose profondément inscrit, je pense, dans la nature humaine qui dit « c'est pas possible que ce soit terminé
oui. ».
Et justement, la foi, elle vient répondre à ce cri de l'homme qui dit « non » et qui vient nous dire « oui, effectivement, la foi nous dit « non, la mort n'est pas la fin de tout ».
Alors, y a-t-il un vrai regain d'intérêt sur la réalité du purgatoire ou est-ce au contraire un sujet qui peut hérisser les croyants? Parce que y a certaines personnes le nient violemment même.
Oui, alors c'est très franco-français ou en tout cas occidental la désaffection pour le purgatoire. Parce que à Montligeon, Montligeon est d'abord une archiconfrérie de prière pour les défunts,
oui.
Pour les âmes du purgatoire, et il y a plusieurs groupes de prières dans le monde, et la question de la prière pour les défunts ne pose pas de question.
Oui.
Au contraire, c'est une dévotion, plus qu'une dévotion, une intuition religieuse profondément inscrite dans le cœur des chrétiens partout dans le monde. Et d'ailleurs, à la messe, on prie chaque jour pour les défunts. Et si on prie pour les défunts, bah justement, on prie pour ces âmes du purgatoire. Et je constate en tout cas qu'il y a un retour, en tout cas en France, d'intérêt sur la question des fins dernières, qui avait plutôt été mis de côté, balayée. En même temps, la question des fins dernières avait parfois été mal présentée ou était très contextuelle. Je pense que le purgatoire aussi a beaucoup souffert d'une image du 19e siècle, doloriste, avec une mélange de spiritisme au romantisme du 19e, et peut-être redécouvrir de manière plus sobre, peut-être moins imagée, mais ce que peut être la réalité spirituelle existentielle de cette purification après la mort, je pense que ça se fait plus doucement que ce que je pensais en France.
En fait, le purgatoire est un état qui faisait peur parce que sombre, enfin dans notre imaginaire, suite au Moyen-Âge, n'est-ce pas?
Non, mais surtout le 19e.
Le 19e, plus que le Moyen-Âge,
oui, parce que le 19e, c'est vraiment l'inflation du purgatoire.
D'accord.
Et je pense que c'est vraiment le 19e qui a plus abîmé le purgatoire, enfin, qui en même temps l'a exalté, mais qui l'a abîmé dans une imagerie. Il a fallu à tout prix inventer des images. Déjà, vous dites le mot sombre, mais en fait, si le purgatoire est un état de purification, un état où le temps qui n'est pas notre temps physique, mais le temps de Dieu, ou le temps où Dieu transforme et purifie l'âme, je vois pas comment on pourrait le qualifier de sombre. Bien sûr qu'il y a de la souffrance.
On pourra en parler,
mais évidemment que c'est d'abord un temps de miséricorde et de justice. Donc c'est le temps où la lumière, lui, dans les ténèbres.
Alors il y a une phrase que vous avez prononcée lors d'une de vos conférences que j'aime beaucoup parce qu'elle désamorce ce côté angoissant dont nous parlions à l'instant. Vous dites « Le purgatoire ne peut être que lumineux car il est l'antichambre du ciel ». il n'est pas cette théorie qui serait née donc sur cette, vous dites, au 19e.
C'est comme les souffrances de l'enfer, on a parfois aimé les imaginer,
oui.
Et donc en les imaginant, on les a figées dans des images. Mais des images ne sont que des images, et elles sont partielles.
Mmh.
Et le risque, c'est de s'enfermer dans cette conception-là. Par exemple, quand je pense qu'il est lumineux, vous voyez, pour moi, le purgatoire, c'est le moment où, si on doit s'habituer à la lumière de Dieu, eh bien, c'est comme quand on a été dans les ténèbres, ou on a été dans un coin sombre, eh bien, il faut que les yeux se réhabituent,
oui,
pour découvrir les lieux extrêmement lumineux. Et le purgatoire, c'est justement ces lieux où le regard s'habitue à la lumière divine.
Quand j'ai lu votre livre, en fait, c'est amusant parce que le purgatoire, ça fait des années que j'en entends parler, forcément. Et j'ai eu cette perception de la lumière que vous voulez transmettre. Et c'est très agréable parce que l'image du purgatoire change. Alors, j'ai bien noté que vous dites que ce n'est pas comme le bac où on se dit il faut l'avoir au rattrapage pour après l'avoir. Et,
C'est ce que dit Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, il faut viser le ciel.
C'est ça.
Et effectivement, le purgatoire, on peut tout faire et il faut tout faire pour éviter le purgatoire parce que ce n'est pas non plus rigolo le purgatoire.
Oui, mais le paradis semble inatteignable.
Ben, oui et non. Oui. Pour l'homme, impossible, dit Jésus à ses disciples, alors qu'il vient de dire comme il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et les disciples disent, mais qui peut?
Oui.
Pour l'homme, impossible, à Dieu, tout est possible. Donc le ciel, c'est finalement laisser entrer le royaume de Dieu dans sa vie. Et c'est à la fois inatteignable pour nous, mais on a tant d'exemples dans la révélation et dans la vie de personnes qui se sont ouvertes même à la dernière minute. Je pense au bon larron. Le premier saint canonisé par Jésus, d'une confession de foi extraordinaire, humble, et qui n'a aucune exigence, mais qui dit juste « souviens-toi », eh bien le Seigneur lui dit « non seulement je me souviens, mais aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Je pense à d'autres figures, donc là je vous donnais comme exemple le bon larron, mais il y en a bien d'autres. À hauteur d'homme, le ciel est impossible.
Ce purgatoire, nous parlons de souffrance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette souffrance?
Je ne peux pas le dire, mais à travers les écrits des mystiques et l'expérience spirituelle, comme Sainte Catherine de Gênes, comme les saints ont essayé d'en parler, Saint Thomas d'Aquin, la grande souffrance du purgatoire, je pense, en les lisant, c'est d'abord la souffrance du retard, c'est-à-dire la soif. Une soif inextinguible, et pourtant on ne goûte pas encore à l'être aimé. Un peu comme quand deux fiancés doivent se retrouver ou deux êtres qui s'aiment se retrouvent après 6 mois d'absence. Plus le temps approche des retrouvailles, plus
l'impatience,
plus la souffrance du désir, mais qu'un désir de joie, de enfin saisir, de enfin revoir le visage de l'être aimé. Et c'est une vraie souffrance. Parce que ici-bas, on peut prendre son téléphone portable, s'agiter, faire plein de choses. Au purgatoire, il n'y a qu'attendre.
Oui.
Et plus ce temps psychologique prépare le cœur, plus le désir grandit, parce que c'est une école du désir, le purgatoire, et plus la souffrance se fait vivre. Et l'autre souffrance, je pense aussi, une souffrance secondaire, c'est la souffrance de justement, c'est aussi une cure de désintoxication, le purgatoire. Le péché, c'est une addiction. La vanité, l'orgueil, les mauvaises paroles, la calomnie, vous savez, tout ça, c'est des mauvais plis que prend notre âme. Et le fait de lâcher ces addictions, eh bien, ça nous met dans un état de vulnérabilité qui nous permet de nous ouvrir à la lumière de Dieu. Mais je pense qu'il y a aussi une souffrance de lâcher toutes nos sécurités, lâcher notre argent, lâcher nos titres, lâcher nos prétentions. Donc ça, c'est une deuxième, c'est à la fois une école du désir et en même temps lâcher ce sur quoi nous mettions nos forces et qui ne sont pas Dieu.
Un lieu de justice?
Oui, et j'aime beaucoup reparler de l'expiation, sachant que c'est un terme qui est... mon Lijon, c'était l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes du purgatoire, et j'étais pas très à l'aise avec cette expression.
Oui.
Et pourtant, dans le mot expiation, il y a quelque chose de beau, parce que c'est une justice qui nous transforme nous-mêmes. C'est pas une justice qui vient de l'extérieur comme pour nous punir et se venger. Quel père se vengerait de son enfant? Mais c'est une justice restaurative de l'intérieur. Je pense, par exemple, un des plus beaux exemples pour moi, c'est dans le film Mission.
Oui, si vous qui l'avez est le vu. Générique de notre émission.
Bah oui. Avec Robert De Niro. Robert De Niro joue un type sombre, un type qui a commis des graves péchés, qui se retrouve, qui a tué son frère, qui tuait des esclaves. Oui. Et Robert De Niro se trouve en prison, en colère, dans les ténèbres. Et c'est un jésuite qui vient le chercher pour l'emmener dans une mission. Et il porte avec lui tout l'attirail jusqu'à cette mission. Il porte avec lui un filet qui contient tous ses oripeaux, les cuirasses, et il veut vraiment les porter sur lui. On lui dit, mais c'est ridicule, laisse tomber. Un jésuite va essayer de couper la corde pour lui dire, arrête. Et lui va porter jusqu'au bout ce qui était son péché, son faux orgueil, ses vanités et sa violence. Et en arrivant dans ce village, c'est un jeune qui se précipite vers lui avec un couteau à la main. On pense qu'il va tuer et se venger. Et au contraire, il va couper la corde. Et Robert De Niro pleure à ce moment-là des larmes de compunction. C'est-à-dire des larmes de se savoir aimer et pardonner bien au-delà de notre péché. Et je pense que le purgatoire, c'est ça d'abord, cette école de compunction.
Alors, à la fin du purgatoire, nous nous trouvons face à face avec Dieu. Et alors, on voit enfin cet être qui nous aime pleinement. Mais, alors, c'est très terre-à-terre comme question. On quitte le purgatoire comme ça, on arrive au paradis ?
Mais,
ou est-ce que, à travers les textes, on a découvert, ou les mystiques, on sentait qu'on approchait du but ?
Je pense que c'est comme une procession, et on arrive vers le cœur, comme quand on arrive, quand on marche vers l'église, ou quand on marche en pèlerinage. Voilà, c'est un pèlerinage post-mortem qui nous transforme. Et en arrivant, ben voilà, on est prêt à... On entre dans le Saint des Saints pour contempler la beauté, la bonté, la vérité, celui qui est amour.
Alors, vous donnez dans votre livre « Le purgatoire dans tous ses états » trois petites prières pour se préparer à la rencontre avec le Christ. Je vais les dire parce que je les aime beaucoup et elles sont faciles à retenir et je pense qu'elles peuvent effectivement habiter notre quotidien. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et bien sûr, on a tendance à l'oublier car nous le martelons assez régulièrement. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, comment de la terre aider les âmes du purgatoire ? Parlez-nous de Montligeon.
Alors, d'abord, je pense que le purgatoire vient profondément de cette intuition, mais qui traverse toute l'humanité. Hein. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est réservé à la révélation chrétienne, que le vivant peut encore aider les défunts. Mmh. Vous l'avez dans toutes les cultures. Les cultures africaines, les cultures asiatiques, en Égypte. Il y a cette espèce d'intuition de se dire « je peux encore ». J'aimerais, je peux encore. Par exemple, à Taïwan, dans certaines cultures, on brûle des faux billets de banque pour donner des billets de banque à ses défunts au ciel pour qu'ils s'achètent des maisons. Ça peut paraître amusant, mais il y a quelque chose de « je peux encore traverser la mort ». Et la révélation chrétienne, elle est venue justement nous dire bah « oui, cette intuition, non, elle est juste ». Elle est corrigée de ce qui est magique et elle est accomplie dans la communion des saints. Et donc, dès le début, les chrétiens ont prié pour les défunts à la messe. La messe, on prie toujours pour les défunts. On peut offrir des messes, on peut offrir l'Eucharistie spécialement en demandant un fruit pour tel ou tel défunt. On peut prier le chapelet, on peut prier la liturgie des heures régulièrement et offerte pour les défunts. Et on peut offrir finalement tous les actes de charité qu'on pose ici-bas, on peut l'offrir pour les défunts.
Alors, nous allons faire une petite pause et poursuivre juste après, excusez-moi.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors vous nous disiez, Don Paul, que nous pouvions aider les âmes du purgatoire. Et alors à Montligeon ?
Alors à Montligeon, l'œuvre de Montligeon a été fondée pour justement prier pour les âmes du purgatoire, les âmes des défunts que nous portons tous dans notre cœur et les âmes du purgatoire les plus délaissées, c'est-à-dire ces défunts pour qui les hommes ne prient plus. Évidemment, les anges du ciel, les saints du ciel prient pour eux et d'ailleurs j'ai trouvé ça remarquable dans
le livre de Richard. Richard qui va venir nous rejoindre dans quelques instants.
Voilà, nos prières... nos prières, c'est comme ces amis du paralytique qui viennent le porter devant Jésus. Le paralytique, il peut rien pour lui. Il a peut-être même rien demandé, parce qu'il est peut-être vraiment, il a peut-être été atteint d'un AVC qui lui a coupé de tout. Mais on dépose le paralytique devant Jésus et on lui dit « prends pitié de lui ». Et Jésus, voyant leur foi, c'est-à-dire la foi des autres, ceux qui l'ont porté, dit « mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Donc c'est ce que nous faisons quand nous prions pour eux.
Merci beaucoup, Don Paul. Alors après le purgatoire, nous atteignons donc obligatoirement le paradis. Celui que Richard de Sèze décrit dans son livre, en arrivant au paradis, aux éditions du Cerf, est bien loin de nos cours de catéchisme, ou même de celui du catéchisme de l'Église catholique. Alors, pour faire une présentation rapide, Richard, de votre livre, il est quand même assez désopilant. Nous plongeons au paradis, dès la deuxième ligne du livre, aux côtés de Sœur Roselyne, qui est fraîchement décédée. Dès sa mort, elle est connectée aux prières d'intercession qui lui sont demandées par ses sœurs encore sur terre, avant même d'atteindre le paradis, mais sans passer par la case purgatoire dont nous parlions à l'instant. Nous sommes dès le début emmenés dans un lieu qui semble être un autre monde, donc comme je disais, pas celui que nous imaginons, un monde avec une bureaucratie à la française, ses lenteurs, sa paperasse, son esprit fonctionnaire. Finalement, une vie très humaine. Et, mais nous faisons tout de même, grâce à Christophe Pouluzu, un petit tour au purgatoire, le thème d'aujourd'hui. Richard, décrivez-nous votre purgatoire dans votre livre.
Alors, c'est le purgatoire des intellectuels.
Oui,
voilà. Donc, j'ai parlé de ce que je craignais, ou de ce que j'espère d'ailleurs, parce que voilà, il arrive à un certain âge où on a bien le sentiment qu'on risque pas d'arriver tout de suite au paradis comme Sœur Roselyne et qu'on va sans doute durer dans l'antichambre. Tout est né, en fait, d'une retraite que j'avais faite il y a longtemps. Et on m'avait affecté au jardin, et donc j'étais en train d'arracher les trognons de choux, puisque les choux avaient été récoltés. Et donc les trognons de choux, voilà, une fois qu'on a coupé le chou, il commence à pourrir, donc évidemment ça pue et c'est pas appétissant. Et un moine passe par là, il me dit, et souvenez-vous que vous mangerez ça au purgatoire. Et ça m'avait, mais traumatisé, parce que je trouvais ça très gratuit de sa part, d'une part de me promettre le purgatoire, j'avais 20 ans, j'avais de grandes espérances à l'époque, et puis surtout je voyais absolument pas le rapport, je voyais pas pourquoi je serais condamné à manger des trognons de choux. Et donc je me suis dit, voilà, ce purgatoire tel que je le rêve, il faut que ce soit un purgatoire où effectivement je fasse pénitence, mais où je comprenne la pénitence qu'on m'inflige. Et donc j'ai imaginé un purgatoire qui est comme une espèce d'immense bibliothèque universitaire, à l'époque où il n'y avait pas Internet, où il y avait des casiers avec des fiches, puis après on allait chercher les bouquins, et où notre vie est dispersée dans des dizaines, centaines, milliers de fiches, et il faut qu'on comprenne où nos actions ont été classées. Voilà. Donc par exemple, j'ai été méchant avec ma sœur quand j'avais 7 ans, et est-ce que c'est classé dans méchanceté d'enfance, est-ce que c'est classé dans colère? Et en fait, je suis obligé au purgatoire de rassembler toute ma vie en réfléchissant en fait à chaque instant de ma vie. Et donc, une fois que j'ai collecté toutes les fiches, donc une fois donc que j'ai compris
que vous avez mis tout ça dans votre caddie,
ce que j'avais fait, oui, parce qu'on a un chariot, voilà, qui, alors certains en ont tellement fait qu'ils ont plusieurs chariots à écoper. Et voilà, une fois que j'ai compris ma vie, donc j'ai compris en quoi j'avais péché. Et puis voilà, le chariot est lourd et le temps de comprendre, ça peut durer longtemps. Ben voilà, ma peine est finie. Et donc, bienvenue au paradis. Voilà, donc c'était pour moi une manière de rationaliser, si j'ose dire. Parce que l'Église nous dit somme toute assez peu de choses sur la manière dont on va souffrir. Et donc, j'étais d'accord avec le principe de la souffrance, j'étais d'accord avec le principe de l'antichambre, mais je n'avais pas envie de manger des trognons de choux.
Est-ce que, Don Paul, l'Église dit vraiment peu de choses sur la manière dont on va souffrir?
Je pense qu'on peut, dans nos expériences spirituelles et à travers les expériences des mystiques, mais même nos propres expériences, découvrir un peu quelque chose de la souffrance. De la purification et l'expiation du purgatoire. J'ai bien aimé dans votre livre le fait qu'on relise sa vie, et on la relise en prenant le temps de découvrir, justement de pleurer des vraies larmes de compunction, des larmes de repentir, qui ne sont pas des larmes de culpabilisation ou de désespoir, mais justement de relire sa vie pour que les choses se réordonnent. Et donc il y a quelque chose de la de l'âme qui se réordonne, qui s'ouvre, qui se restaure. Donc, je pense aussi, vous voyez, par exemple, apprendre à se laisser regarder par le Christ. On en parle beaucoup dans notre vie de foi, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on laisse Jésus regarder toutes les parties de notre vie? Il y a des parties dont on a honte, on ne veut pas qu'il regarde, même si on va les confesser. Je pense que le purgatoire, c'est vraiment laisser ce regard, vraiment nous laisser regarder par lui et le regarder à notre tour. Je pense aussi que le purgatoire, c'est apprendre à pardonner ce que nous n'avons pas pardonné. Enfin, Jésus nous le dit, hein, nous invite à pardonner de tout notre cœur. Donc il y a des choses dans nos vies que nous avons du mal à pardonner. Bah, au moins, voilà, nous ouvrir sur ces chemins de pardon, et le purgatoire est et ce temps-là. Enfin, je pense que dans nos expériences spirituelles, il y a des choses très concrètes, en fait. Alors moi, je suis très content de l'avoir trouvé en image, mais je suis un peu... Bah, c'est un peu court, j'aurais aimé...
Faut faire un tome 2.
Quoi qu'on fasse un autre tome sur le désir.
Écrivons ensemble ce tome 2. Mais effectivement, par exemple, à un moment donné, je parle des tréfonds du purgatoire où sont classés en fait tous les assassinats, les crimes les plus horribles. Il y règne une température plus fraîche, qui est un peu une réminiscence de Dante. Et les gens qui croisent Christophe Pouzulu, il s'est un peu égaré là, il cherchait autre chose. Sont des gens qui sont irrités, en colère, et donc on sent qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir les boîtes aux archives. Voilà, donc il y a effectivement des péchés qui ils puent tellement, ben voilà, j'ai absolument aucune envie de les respirer à nouveau. Voilà. C'est important de se dire que ce temps de purgatoire, c'est vraiment un temps où c'est moi qui me purifie, en fait. Évidemment, Dieu me donne les moyens de cette purification. Mais si je n'y contribue pas volontairement, il y a quand même peu de chances que ce soit efficace.
Il y a tout de même des vérités percutantes au milieu de l'humour que vous maniez si bien dans ce livre. Ainsi, vous évoquez le temps. Et vous dites, le temps de votre pénitence est mesuré à une horloge à vous seul destinée. Et là, on se dit, oui, en fait, oui, effectivement, le temps passe. Comment, en fait, on va un peu dans son âme en vous lisant, parce qu'on fait nous-mêmes le point, comme eux font le point au purgatoire. Ou alors, on découvre ces prières promises, jamais priées, prières avortées, dites-vous vous-même.
Je suis comme beaucoup de chrétiens, on m'annonce que quelqu'un va mourir, est malade, etc. Je dis, mes pensées, mes prières t'accompagnent. Puis voilà, une fois qu'on a dit union de prière, UDP, comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux, on l'oublie. Et en fait, je me dis, mais c'est abominable. En fait, on promet des prières qui ne sont pas récitées. Je me suis dit, voilà, le purgatoire, ce sera aussi le moment où tout ce qu'on a promis, eh ben, on sera obligé de l'accomplir. Alors, comme c'est Dieu qui maîtrise le temps et c'est Dieu qui équilibre les grâces, je me suis dit que lui-même s'y retrouverait. Et vous savez, je ne sais plus quel écrivain français disait, Blois, je crois, on ne sait pas dans quelle mesure... une petite fille qui est en train de prier n'a pas contribué à telle victoire de l'armée française. Et les gens me lisent, enfin lisent ce petit roman et me disent, maintenant je ne promets plus de prière sans être certain de pouvoir la réciter. Je sens que j'ai traumatisé un nombre de conscience incroyable avec cette idée. Mais tant mieux, voilà, si chacun récite les prières qu'il a promises, tant mieux.
Dom Paul, Saint Paul rassurait dans sa lettre aux Thessaloniciens ceux qui pleuraient leur mort, leur disant qu'ils s'étaient endormis dans le Seigneur. Il n'y avait pas de prière pour les morts, cela est venu après. J'ai une question, quid de l'âme de ceux qui sont morts après cette proclamation de foi? Peut-on faire un lien avec Jésus qui est descendu aux enfers?
Qui sont morts après cette proclamation de foi? Alors, d'abord, je pense qu'il y avait déjà des prières pour les défunts, parce que ça habitait déjà le cœur du peuple juif. Et ensuite, on lit chez saint Paul que certains se font baptiser pour les morts.
C'est-à-dire pour... c'est chez les mormons?
Non, mais il le dit déjà dans... Et en fait, il y avait cette pratique déjà dans les églises primitives. Je vais demander le baptême pour mon arrière-grand-père qui n'a pas connu le Christ et qui se fait... Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
On comprend pas bien quelle est cette pratique. Elle a été abandonnée, mais il y a quelque chose de saint Paul en témoigne en tout cas. Donc de ce désir que le Seigneur vienne à tous. Et effectivement, dans le mystère de la descente aux enfers, c'est un mystère qui résonne encore depuis que le Christ est descendu aux enfers. Non seulement il est venu chercher les défunts les justes de l'ancienne alliance et les justes qui sont morts avant lui, avant sa mort sur la croix, mais il est venu chercher tous les morts. Dans ce mystère de la descente aux enfers, il vient nous chercher. Et aujourd'hui encore, lors de ma mort, je le rencontre dans cette descente aux enfers.
Richard, on a peu de temps, il nous reste 2 minutes, mais j'ai quand même une petite question. Dans votre post-face, vous dites que ce paradis ressemble fortement à la France, une France rêvée, passée.
Non, une France encore actuelle. Nous sommes constitués de toutes les relations, enfin nous sommes Dieu nous constitue et nous constitue immédiatement comme un être relationnel, comme lui, qui est un être relationnel. Et ce sont toutes ces relations qui ressuscitent avec moi, donc qui sont transportées au purgatoire, au paradis, etc. Et dans ces relations, il y a des relations charnelles. Et donc pas au sens des relations charnelles, au sens des relations avec l'environnement, avec les arbres, avec les plantes. Saint Thomas d'Aquin dit à un moment donné que les plantes et les animaux ressusciteront. Bon, ben, je me suis dit parfait, tirons le fil. Eh bien moi j'ai vécu en France, c'est toute la France qui m'a constitué, et donc, qui est plus faite de cathédrales que de musées du Quai Branly, même si j'y suis allé. C'est tout ça qui va ressusciter avec moi. Et donc le paradis est en fait la collection de toutes les terres de tous ceux qui y sont. C'est agréable, c'est varié.
Merci Richard, merci Don Paul. J'invite tous nos auditeurs à retrouver cette émission sur Radio Courtoisie en podcast et sur les réseaux sociaux, puisqu'elle est filmée. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, chers auditeurs.